Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 11 mai 95.
Élaborer une philosophie. même un animal domestique veut dire qu'on regarde de très près, qu'on voit pleurer et aboyer. Comment je peux interpréter un chien fidèle qui pleure quand sa maîtresse s'en va? Ça touche profondément celle qui l'a éduqué. Peut-être beaucoup plus que le chien lui-même. Peut-être, je ne sais rien. Je ne sais pas quelle est la profondeur des larmes du chien ou de l'aboiement. C'est quelque chose très cru à voir et essayer de comprendre. Est-ce que c'est purement instinctif? Est-ce qu'il y a plus? Il y a l'estimatif, il y a quelque chose de particulier. Et je ne peux pas en faire la philosophie. Je ne peux que analogiquement projeter sur le chien tout ce qui me touche. Je ne peux pas faire plus. Et même quand la maîtresse du chien dit « Oh, je te comprends, mon petit », elle ne comprend rien du tout. Elle voit de l'extérieur, elle imagine. C'est l'être vivant le plus complexe. Et c'est l'être vivant qui connaît le plus grand devenir, la plus grande croissance. Parce que nous commençons dans une vie biologique, végétative. Entièrement cachée. Secrète. L'art essaie de le connaître. Il ne le connaît que partiellement. On recompose. Et on ne peut pas connaître de l'intérieur la croissance de l'embryon. L'embryon seul pourrait le connaître. Il n'a pas la conscience. Même si, de fait, on essaie de joindre le plus possible tous les différents moments de la croissance, c'est toujours une connaissance qui se fait par un point de vue extérieur. Donc au fond, on ne connaît pas philosophiquement parlant le développement de l'embryon. Je ne connais que d'une connaissance parcellaire et extérieure, et donc scientifique. Le philosophe peut poser des questions aux scientifiques, mais c'est le scientifique qui connaît de l'extérieur et qui décrit une connaissance descriptive. Et il essaie de saisir les moments importants, les passages d'un moment à l'autre. Et je ne connais pas philosophiquement, je ne peux rien ajouter. Je peux poser des questions que le savant peut-être ne se pose pas. Vous voyez, cette fameuse question de l'âme. Quand l'âme est-elle créée par Dieu dans le développement de l'embryon? Est-ce que c'est dès le premier moment? Est-ce que c'est plus tard? Mais ça, c'est une question philosophique. Ce n'est ni une question morale, ni une question chrétienne. C'est une question philosophique qui est importante et intéressante et qu'il faut se poser. Comme pour la mort. Des questions ultimes. Alors, je peux saisir de l'intérieur dès qu'il y a conscience. Et je saisis à ce moment-là le développement de cette conscience. Nous avons vu, le premier moment de la conscience reste très caché. Vous ne pouvez pas dire à quel moment vous avez eu conscience vraiment d'être l'enfant développerai ça. Je dépouillerai tous les secrets de votre cœur. C'est pas un secret du hasard. C'est pas un secret. À quel moment il y a eu conscience d'une dépendance à l'égard d'un être humain qui était proche de vous et que on appelait la maman, la mère. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que cette connaissance que nous faisons, cet effort que nous faisons de développement du vivant qui est l'homme, demeure quelque chose de très, très imparfait. Alors c'est intéressant de voir l'aspect négatif de ça. Bon, à quel moment y a-t-il eu l'éveil des sensations? Je crois très vite. Mais connaissance de cet éveil, beaucoup plus difficile. Connaissance de l'aspect du concupiscible, sûrement c'est premier. Mais l'irascible s'est manifesté très vite, les pleurs. L'aspect fébrile de l'enfant. De l'intellect pratique. tout ça peuvent se décrire. Et le développement de la connaissance pratique pour acquérir la prudence. On n'acquiert pas la prudence tout de suite. L'âge de raison, c'est l'âge où il doit y avoir déjà un peu de prudence. Et je crois que dans un climat de vie chrétienne, le développement est beaucoup plus rapide. C'est du reste ça qu'on devrait rappeler aujourd'hui, avec beaucoup plus de force. On devrait montrer qu'un enfant élevé dans un milieu chrétien est plus avancé qu'un enfant qui n'est pas élevé dans un milieu chrétien. Il gagne du temps. La vie chrétienne fait gagner du temps. C'est extraordinaire. Comme propagande. Aujourd'hui, c'est ça, je crois. D'une façon générale. Parce qu'il peut toujours y avoir des super doués qui sont extrêmement rapides dans la connaissance, même s'ils sont élevés dans un milieu non chrétien, mais d'une façon générale. Je suis persuadé qu'il y a là quelque chose de très significatif et de très vrai à la vie chrétienne. C'est que la grâce mûrit la nature et que la grâce, elle est reçue dans l'âme spirituelle et elle rayonne nécessairement par la foi, l'espérance et la charité. Et que la foi mûrit l'intelligence. D'abord d'un point de vue pratique, puis d'un point de vue spéculatif. Oui, je ne l'ai pas vu, parce que ça, c'est pas philosophique, vous comprenez? Mais c'est intéressant pour nous à comprendre ça. Au plan philosophique, je n'en parle pas. Je parle du développement de ma vie intellectuelle. À quel moment je passe de la connaissance pratique, prudentielle et artistique à la connaissance dite spéculative. Il est sûr que la connaissance artistique est première, puis c'est la connaissance prudentielle. Et la connaissance artistique peut très bien se développer très fortement, sans aucune prudence. Le petit gosse qui joue au mécano, c'est l'ordre artistique. La petite fille qui joue à la poupée, c'est d'ordre artistique. C'est pas d'ordre moral. Faut pas dire, alors la fille, parce qu'elle joue à la poupée, elle va être plus vite éduquée au point de vue moral. Peut-être que ça joue plus. Ça, c'est possible. Parce que c'est un art qui fait appel très vite à la morale, même dans le jeu. Tandis que le mécano et le train et les petits soldats, pas de moral non pas du tout. C'est la violence plutôt, toi. On se sert de revolver. Qu'est-ce qu'il y a comme moral? Ne me tue pas, c'est tout. En dehors de là, c'est pas ça. Mais on s'aperçoit que ça ne tue pas, alors on y va. Parce que je crois que si l'enfant s'apercevait que ça tuait, il ferait grande attention. Oui. Pendant la guerre, il y a eu comme ça des scènes réelles qui m'ont été rapportées. Je ne sais pas, mais réelles. L'enfant qui sans s'apercevoir que c'était des armes dangereuses, ont joué avec des armes dangereuses. Ils ont tué leur petit frère ou leur petite sœur. Tuer d'autres qui venaient. On m'a raconté l'histoire de mec qui sort comme ça. Et l'enfant était resté seul. Et les parents avaient dit, étaient partis pour de jamais ouvrir la porte. Et puis ils ont ouvert la porte et puis ils sont tombés dans. Et là, ils se sont servis d'un revolver. Ils ont tué. Et alors après la désolation. Mais c'est pas commun de commencer sa vie morale ayant tué quelqu'un. Le poids que ça peut faire, et qu'on n'a pas conscience intérieure, sauf à partir du moment où on commence à développer son intelligence spéculative, je crois. La conscience qu'on a du jeu est importante, mais quand l'enfant uniquement joue, il n'y a pas beaucoup de conscience. C'est très imaginatif. Et autant que peut s'en apercevoir, quand vous approchez d'un gosse qui joue et que vous voulez entrer, il vous fait entrer dans un jeu imaginatif. Il vous raconte des tas d'histoires. Et c'est symbolique. C'est intéressant, du reste, à voir ça entrer. La conscience morale. L'Église avait 17 ans, la conscience morale, ou 6 ans, ou 5 ans. Comme aujourd'hui, tout va plus vite, ça, 5 ans. Nos grands-pères, c'était 16, 7 ans, mais ils ont bien plus évolué, tu vois. Donc c'est 5 ans maintenant. C'est vrai, conscience morale qui se fait, je crois, au point de départ, donc prudentielle, par la désobéissance et le mensonge. C'est tout de suite ces choses-là, vous voyez, ces deux aspects négatifs. C'est par la négation qu'on a le plus vite conscience. C'est intéressant à noter parce que, et je crois que c'est vrai ça, je crois que c'est vrai, que c'est vraiment par la négation, la désobéissance et le mensonge, qui sont deux aspects négatifs, que de fait on prend conscience premièrement de la faute morale. Je crois que c'est toujours là. Et donc, conscience au point de vue prudentiel, qu'on a fait quelque chose qui était mauvais, qu'on s'est coupé de la source. Et alors, vous voyez, si c'est vrai, ça fait comprendre comment, au point de vue pratique, la négation est avant l'affirmation, au point de vue de la conscience. Et ça fait comprendre comment on peut arriver au point de vue spéculatif avec la négation avant l'affirmation. Découvrir ce qu'est la modernité. Puisque je crois que la modernité, c'est ça. C'est mettre la négation avant l'affirmation, au plan spéculatif. Et ça provient que, au point de vue moral, au point de vue intelligence, confond l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Cette confusion amène à cela. Donc, la naissance de la prudence me fait comprendre par l'aspect négatif que je suis responsable. C'est la responsabilité qui est, je crois, le premier moment de la conscience morale. Et un caractère de responsabilité négative. Je mens. Le mensonge. C'est pour ça que la mère dira toujours, mais tu mens. Et puis la désobéissance. La coupure par rapport à l'autorité. Pour la connaissance spéculative, qui est sûrement plus tardive, bien que dans certains cas, ça peut être très rapide. Je vous ai donné l'exemple de ce gosse de 4 ans qui pose la question à sa mère, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Ça, c'est pas pratique. Donc c'est l'ordre spéculatif. Et si l'enfant vraiment à 4 ans a posé cette question, ça prouve qu'il y a un éveil de l'intelligence spéculative à cet âge-là. Mais tous ne sont pas comme ça. On ne peut pas dire qu'à 4 ans, tous les gants. Gosses posent la question à leur mère, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Non. Ils posent des questions qui sont analogues. Mais c'est très intéressant parce que, au fond, l'éternité, au plan philosophique, génétiquement, je crois que ça a été le premier problème pour le dépassement du sensible. Je crois. Mais c'est l'éternité qui pose en premier lieu l'existence d'un être premier. Historiquement, c'est ça. tout, c'est comme ça. Tu es l'éternel. L'affirmation de l'éternel, c'est l'affirmation génétiquement, je crois, première du dépassement de la transcendance par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce que nous expérimentons. Il y a là quelque chose qui est très très premier. Donc on pourrait dire, et c'est ça qui serait intéressant à voir si c'est vrai, je le pose comme une question, on pourrait peut-être dire que l'intelligence spéculative s'éveille à propos de problèmes théologiques. Alors là, le milieu chrétien favorise énormément l'éveil de l'intellect spéculatif, puisque on pose la question de Dieu. Dieu, il est éternel, n'est pas lié au temps. Dieu est invisible. Dieu est miséricordieux. Il lit dans nos cœurs, au-delà de tout l'aspect imaginatif, tout l'aspect représentatif. Historiquement, la connaissance spéculative a commencé par la théologie. Alors il doit y avoir un fondement. Et c'est l'interrogation qui porte sur l'être invisible premier, qu'on n'a pas nécessairement démontré, mais que les traditions chrétiennes, judéo-chrétiennes, nous ont données. Or, dans ce milieu chrétien, les traditions judéo-chrétiennes sont présentes. On dit la prière le soir, le matin. Et donc on parle tout de suite de Dieu créateur. Et je crois que ce qui est historiquement vrai sur est historiquement vrai pour chacun d'entre nous. Dans le milieu chrétien, je dis bien, c'est là où on ne peut pas affirmer un premier absolu, puisque ça dépend du contexte. Et le contexte, c'est le milieu. Dans un milieu absolument païen, athée, on ne parle jamais de Dieu. C'est défendu de parler de Dieu. Je ne crois pas du tout que les premières interrogations soient des interrogations par rapport à la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Alors là, il faudrait voir quelles sont les premières questions. Alors, est-ce que c'est la question de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Question de Parménide. Qu'est-ce que c'est que le devenir? Qu'est-ce que c'est que l'être caduque, l'être qui dégringole tout le temps, incapable de se tenir par lui-même? La question demeure. Qu'est-ce qui peut être? Qu'est-ce qui peut être le point de départ d'une interrogation? Existe-t-il un être premier? Parce que ça ne m'étonnerait pas du tout, voyez, que l'intellect spéculatif, l'intellect séparé, s'éveille par une présence invisible, à cause d'une présence invisible, Dieu. C'est intéressant de voir ça. Je ne peux pas vous répondre, mais je vous pose la question. En distinguant bien, je dis bien, le milieu chrétien et le milieu non-chrétien. Et à partir de là, je peux dire que dans le milieu chrétien, l'intellect spéculatif se développe plus vite. Parce que dans un milieu positiviste, l'intellect spéculatif ne se développe pas du tout. Au contraire, il est toujours refoulé. On ne pose poser de questions qu'au sujet des choses qu'on voit et qu'on constate. Et on arrivera à affirmer, et c'est Auguste Comte qui le dit, que l'âge métaphysique, c'est l'âge de l'enfant. Donc toute grande question sur l'existence de notre être, de notre vie, du Créateur, tout cela, c'est débile. Ça représente l'âge de l'enfant. Alors on concède que l'enfant se pose ces questions-là. On va pas plus loin. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi l'enfant se pose-t-il ces questions-là? Alors on dira que c'est le milieu. Et que ça appartenait à une culture chrétienne. Oui, mais dans cette culture chrétienne, est-ce que tout est imaginatif? Oui, c'est là où on retombe sur le problème d'essayer de comprendre, philosophiquement parlant, ce qu'est la vie chrétienne. Ça aiderait quelqu'un qui serait dans cette recherche-là. Ça, c'est sûr. Donc, il faut se poser la question, à quel moment il y a émergence par l'interrogation de cette question. Quelle est l'émergence de la philosophie?
Séparé de la nature
séparer de ce que la nature peut donner. Et il faut comprendre cela pour voir combien l'éveil de l'intelligence spéculative aujourd'hui est beaucoup plus difficile qu'avant. Parce que les traditions religieuses sont beaucoup moins fortes et parce qu'on est dans un climat de communication artificielle. Et Nietzsche a très bien saisi ça. Et c'est intéressant de saisir à partir de Nietzsche ça et de le vérifier nous-mêmes. Et donc, il est assez normal que l'éveil de l'intellect spéculatif est beaucoup plus difficile dans notre monde aujourd'hui. Si on est dans un milieu scientifique et positiviste, on a une peine énorme à l'éveil de l'intelligence spéculative. Tandis que dans un milieu artistique, c'est encore l'art aujourd'hui qui peut le mieux transmettre une interrogation pour l'intellect spéculatif, je crois. C'est pour ça que l'art joue un tel rôle au point de vue éducation. Et pour pouvoir maintenir l'éveil d'un intellect spéculatif et donc d'une philosophie, d'une métaphysique, l'art devient indispensable. Déjà, Aristote avait noté. Pour Aristote, tout point de départ de la connaissance philosophique, c'est l'art. C'est pas la morale, c'est l'art. Et je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, où la morale est très réduite, c'est évidemment l'art qui peut être source d'un éveil intellectuel. Et se poser la question, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Quand on a contact avec une œuvre artistique et l'œuvre de la nature, ce premier réveil que nous avons tous connu, ou que nous pouvons tous connaître, est très très important. Monsieur Test de Valérie, c'est très important. Parce que ça nous oblige de reconnaître que tout domaine artistique présuppose un domaine réel. Et que c'est ce domaine réel qui peut seul éveiller notre intellect spéculatif. L'art n'éveille pas l'intellect spéculatif par lui-même. Mais il peut encore être, dans le contexte d'aujourd'hui, le meilleur moyen qui nous éveille à la connaissance spéculative. Parce que l'art éveille au tragique humain. L'art éveille à l'homme. Et l'éveil à l'homme, c'est l'intellect pratique. C'est pas l'intellect spéculatif. Alors, c'est là où c'est pas commode de voir dans notre monde d'aujourd'hui qu'est-ce qui peut éveiller le plus l'intellect spéculatif. Je crois que c'est encore l'art. Mais il faut comprendre que c'est un dépassement de l'art en confrontant les réalités naturelles et les réalités artificielles. Et si on est un peu intelligent dans notre monde d'aujourd'hui, on est tout le temps en face de ce dilemme. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'il y a un retour à la métaphysique. Parce que de fait, le domaine artistique, artisanal, est tellement fort qu'on peut se poser la question. Nietzsche termine art, art. Il n'y a rien au-dessus de l'art. Et quand je dis qu'il n'y a rien au-dessus de l'art, l'art, à la place d'être un moyen qui me fait entrer dans le point de vue philosophique et le point de vue de l'intellect spéculatif, c'est juste l'inverse. L'art peut très bien être un terrible obstacle à l'intellect spéculatif. Parce que il y a une joie de la forme et de la forme qui séduit dans le point de vue de la cause, dans le point de vue de la cause exemplaire. C'est la forme qui séduit. Et cette forme qui séduit peut me séduire très profondément et m'empêcher complètement de rechercher. la vérité. Au plan politique, on voit ça. Mais on parle de valeur et non plus de finalité. Or, la valeur reste quelque chose d'immanent. Mais on ramène la finalité à quelque chose de... qui est le bien de l'intelligence.